Chers auditeurs et auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères journalistes. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au rendez-vous, à savoir les mesures prises il y a trois semaines par les autorités de tutelle pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui continue à défrayer la chronique, et la conférence de Bakou de 2024 sur le changement climatique qui a débuté le 11 novembre dernier. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Jack Fouraïcha. Il est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Bonsoir Jack et bienvenue dans ces rendez-vous de la Tribune de la Presse. Voilà, deuxième invité, c'est Pascal Kambala. Il est journaliste de la rédaction de la radio Biwan. Bonsoir, chers collègues, et bienvenue dans la Tribune de la Presse.
Bonsoir à vous, bonsoir aussi à tous les auditeurs, auditrices de la grande radio, Radio Okapi.
Merci beaucoup. Troisième invité, c'est Sarah Manganza. Elle est journaliste à Enviro News, spécialiste sur les questions de l'environnement. Sarah, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de la Tribune de la Presse et de Radio Okapi.
Bonjour Tati, bonjour aux auditeurs.
Merci à vous. Tati Mapoukou est à la présentation de cette Tribune de la Presse. Kéline Kouté coordonne ses numéros sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe et Jean-Noël Moukondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous des Tribunes de la Presse.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la fréquence modulée 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de vous joindre à nous à www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire La Tribune de la Presse. Jack Fouraïcha, nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi dans la province de Tanganyika. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a marqué votre attention cette semaine dans la province du Tanganyika, à Kalemi spécialement?
Merci beaucoup Tati, merci à tous les auditeurs de la radio Ndenga News et bonsoir aux confrères journalistes qui sont en ligne. Merci beaucoup. L'actualité à Kalemi, pour le moment, l'actualité reste dominée par bien sûr l'accueil du président de la République qui est annoncé à Kalemi à la fin de ce mois pour la conférence de gouverneurs ici dans les chefs-lieux de la. Une autre nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui, il y a les agents de l'ordre. Comme vous le savez, Kalemi fait face depuis un certain moment aux multiples cas d'insécurité. Et les agents de l'ordre viennent de tomber sur certains malfrats, certains présumés voleurs qui sont présentés ou qui ont été présentés hier à l'autorité provinciale. Et je disais que Kalemi, depuis un certain moment, fait face au cas d'insécurité au niveau de la ville et dans les coins de la ville de Kalemi, dans différents coins de la ville de Kalemi. Et l'autorité provinciale, en collaboration avec la population, en collaboration avec les agents de l'ordre, ils viennent de tomber sur cinq présumés voleurs qui ont été présentés hier à l'autorité provinciale. Parmi eux, il y a et un agent de renseignement. Donc, pendant que nous, on passait nuit à la Belle Étoile en train de raisonner, peut-être on va visiter ma maison aujourd'hui. Ce sont des agents de l'ordre qui nous embrillaient, etc. Donc, c'est un coup de chapeau à l'autorité provinciale et à toute la population de Kalemi pour ce travail. Une autre actualité, je voulais dire, Tati, c'est cette pluie, cette pluie qui s'abat ces derniers temps sur la. Oui, la pluie actuellement dans la ville de Kalemie. Comme vous le savez, Kalemie, avec le lac Tanganyika, la montée des eaux du lac, il y a la route principale, on n'a qu'une seule route principale qui est le boulevard Lumumba, qui aujourd'hui commence encore à être menacée par les eaux, pas seulement du lac, du côté de l'ancienne base de la Monisco, mais aussi des eaux de basées par des constructions causées par des sur le boulevard Lumumba, la route vers les gouvernorats. Voilà un peu l'actualité.
Merci beaucoup, M. Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes journaliste, hein, directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie. Vous étiez en train de faire les points sur les faits ayant retenu votre attention cette semaine au niveau de la ville de Kalemie et ses environs. Pascal Kambala, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwan. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a captivé votre attention cette semaine?
Oui, j'ai deux éléments. Merci tout d'abord. J'ai deux éléments. Tout d'abord, le premier, c'est sur les états généraux de la justice. J'ai suivi attentivement les discours, les positions des participants. Mais moi, j'aimerais lancer un appel aux magistrats. Il est temps que les magistrats prouvent le contraire, parce que quand vous suivez les discours, tout le monde revient sur pointe du doigt là, les magistrats. Alors les magistrats ne sont pas les seuls à participer dans l'appareil judiciaire.
Non.
J'en appelle aux magistrats de penser, de voir leurs collègues. Au niveau de l'Italie, ils se rappelleront que à un moment donné, l'Italie était confrontée à la mafia, et ce sont les magistrats qui sont venus à réduire cette mafia. Donc il est temps que nous puissions avoir des magistrats courageux, des procureurs courageux, tant au niveau du ministère public de parquet, tant au niveau de siège. J'en appelle aux magistrats courageux, parce que on a indexé beaucoup de magistrats. J'en appelle aux magistrats courageux d'arriver à réduire cette mafia, cet establishment qui existe dans notre pays. Et aussi, et que les magistrats donnent cette blason terni des magistrats, que puissent un peu arriver à les redorer. Parce qu'il n'est pas bon dans la société que la majorité des gens arrivent à pointer seuls les magistrats dans cette affaire où la justice est critiquée. Mais je pense qu'il y a des bons magistrats, et des magistrats courageux arriveront à ne pas ternir, mais à donner, à redorer les blasons ternis des magistrats. Et notre élément,
oui,
je vais vite terminer.
Cher collègue, s'il vous plaît.
Je n'arrive pas.
Oui, cher collègue, s'il vous plaît, je veux souligner un point. Vous l'aviez relevé. Le magistrat n'est pas l'unique acteur à intervenir dans le secteur judiciaire. Il y a également les juges, il y a les avocats, il y a également
les greffiers, les huissiers, tout ça.
Voilà, voilà.
Mais référant aux magistrats italiens de l'époque, qui face à la mafia, les magistrats ont pris conscience pour s'attaquer à la mafia, qui avait gagné le monde politique, le monde économique, partout. Dans tous les secteurs, la mafia avait gagné l'Italie. Mais seul le magistrat, ce n'était pas les politiciens, c'était des magistrats qui s'étaient arrivés à réduire la mafia. Il sera de même pour nous dans notre pays. Vous savez, vous allez dans Romains, je crois, 13, les magistrats ont reçu de part, je suis chrétien, ont reçu de part la Bible, la mission aussi de dire le droit. Ils ont aussi reçu la mission de dire le droit de par notre constitution. Je pense que si dans notre pays, nous avons des magistrats, des procureurs, des magistrats, tant au niveau du parquet, tant au niveau du siège, de magistrats courageux, je pense qu'ils arriveront à réduire et à donner les lettres de noblesse à notre justice. Je termine par cet élément ici. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le franc congolais est toujours dominé par les rois dollars, alors que le gouvernement paie activer beaucoup à travers la Banque centrale, beaucoup d'éléments, beaucoup d'actions pour que les francs congolais arrivent quand même à redorer, disons, arrivent quand même à avoir de la valeur au niveau des marchés d'échange. Je tiens pour cet exemple ici. Le chef de l'État l'a dit quand il a pris le pouvoir, que tous les mining, les sociétés minières, puissent arriver à rapatrier les 60% des produits de la vente des minerais. Pourquoi cette disposition qui est contenue dans notre code minier n'est pas respectée? Pourquoi Madame la Ministre ne peut pas respecter cela? Et vous verrez, je promets, si on respecte cela, les frais d'exportation, les frais de la vente des minerais sont rapatriés à 60%. de devises rapatriées et logées dans la banque centrale, vous verrez, ça ne fera pas deux semaines. Le franc congolais aura de la valeur sur le marché d'échange. Et je m'étonne pourquoi, jusque-là, on n'arrive pas à les faire, alors que Côte d'Ivoire est arrivée à 80%. Donc ça m'étonne jusqu'à aujourd'hui, des mesures économiques fortes ne sont pas prises, des mesures sociales fortes ne sont pas prises pour aider les Congolais, soulager les Congolais. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on peut recourir à des méthodes, à des mesures pour arriver quand même à donner, à aider les Congolais socialement et économiquement.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de la Radio Biwan, un organe de presse basé ici à Kinshasa. Nous vous gardons en ligne. Je me tourne vers Sarah Manganza, qui est journaliste à la rédaction d'Environ News, un média spécialisé sur les questions de l'environnement et santé publique. Sarah, dites-nous, quelle est la nouvelle qui a le plus marqué votre attention?
Ici à Kinshasa, il y a la déclaration faite par le ministre de la Santé, le docteur Roger Tamba, sur l'amphore. Il a dit qu'il y a eu 1332 morts suite à cette maladie depuis le début de l'année. Et particulièrement, ça m'a touchée parce que je me dis qu'il n'y a pas eu assez de mesures pour encadrer cela. Et du coup, ces morts sont vraiment déplorables parce que nous nous souviendrons que lors de la COVID-19 également, la maladie avait été annoncée au pays, mais il n'y avait pas de mesures strictes pour aider la population à comprendre qu'il y avait du sérieux et que c'est une maladie mortelle, quoi. Donc les bus, par exemple, en commençant par le bus Transco qui est de l'État, ne respectent rien du tout sur le plan sanitaire. Aucune norme sanitaire n'est respectée dans le bus Transco. Moi-même, j'ai eu à vivre ça. J'ai pris un bus Transco à Victoire pour aller au campus. J'ai vu comment les gens étaient confinés dans ce bus-là. C'était vraiment déplorable. Alors, c'est normal qu'on continue à enregistrer des morts lorsque les pays ne sait pas prendre des mesures strictes pour lutter efficacement contre des épidémies.
Tout c'est vrai, je me rappelle également que le gouvernement avait annoncé l'arrivée des doses de vaccins contre la Mpox. Je ne sais pas si la vaccination avait déjà commencé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à chacun de vous d'avoir décortiqué pour nos auditeurs l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine. Le premier thème, on vous garde en ligne. Restez à l'écoute parce que là, on n'a pas pu avoir tous les collègues ici au studio à cause des embouteillages ici au niveau de la ville de Kinshasa. Le premier thème de ce soir concerne les mesures prises par les autorités de tutelle pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il y a 3 semaines. Donc, depuis 3 semaines, la ville de Kinshasa expérimente la circulation routière à sens unique et alterné sur certaines artères. C'est là de 5h à 10h et de 15h à 21h. Signalons également une présence accrue des policiers, agents de la CNPR et de la police militaire afin de prévoir les bandes dédiées. Et ces mesures ont été instaurées afin de lutter contre les embouteillages monstres dans la capitale. Quelle analyse faites-vous sur cette mesure prise pour fluidifier la circulation routière sur certaines artères principales de la ville de Kinshasa? Nous analysons ces thèmes avec nos collègues journalistes qui sont ici à Kinshasa et un collègue journaliste, Jacques, qui est à Kalemi, au niveau de la province de Tanganyika. Jacques, nous allons commencer par vous. Comment commentez-vous cette actualité qui continue à défrayer la chronique au niveau de la ville de Kinshasa? Nous commençons par Jacques Fouraïcha. Vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Comment commentez-vous cette actualité qui continue, cette nouvelle qui continue à défrayer la chronique ici à Kinshasa? Jacques, à vous la parole.
Merci beaucoup, Tati. Merci. C'est un sujet très pertinent. En fait, la décision, Tati, a été prise il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, mais les embouteillages restent de la même manière comme ça a été. Il n'y a pas de changement. Je l'avais dit dans l'émission.
Les derniers numéros, la semaine dernière.
Oui, le dernier numéro qu'on avait réalisé. Mais s'il vous plaît, Kinshasa a des problèmes. Kinshasa a des problèmes de routes. Le pays a des problèmes de routes. Et s'il y a un problème de routes, il faut trouver des solutions durables. Pas des solutions, il faut conduire à sens unique, de telle heure à telle heure. écoutez, hier, j'ai parlé avec un collègue. Il faut, le gouvernement ou la Saint-Père doivent nous proposer des solutions durables et non des solutions palliatives, des solutions à durée déterminée. Il faut des solutions à durée indéterminée, hein, pour ceux qui viennent, pour ceux qui existent, ceux qui viendront et ceux qui utiliseront ces routes. Donc, il faut réflexionner toutes les routes, hein, les routes secondaires de la ville de Kinshasa, afin de permettre, si, par exemple, sur le boulevard Lumumba, il y a des embouteillages et que moi, je quitte la porte d'Ndili, allez-je dire, je vais faire la ville, il faut qu'il y ait des routes secondaires, mais aussi réfectionner des routes interurbaines, allez-je dire, mais et des routes intermunicipales. Donc, il faut qu'il y ait des routes qui vont se connecter, par exemple, je vais faire limiter, il faut qu'il y ait des routes qui vont me permettre, sans passer par le centre-ville, et directement je fais limiter et j'arrive sans problème. Mais des fois on se dit, bon, est-ce qu'il faut prendre la voiture, il faut prendre le véhicule, j'ai pas la moto. Il faut soit démolir des maisons, s'il y a des maisons en état, il faut agrandir le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, le boulevard Triomphal.
Oui, un autre souci, Jacques, c'est l'aménagement des infrastructures, hein, donc cela inclut l'amélioration des carrefours, des espaces de stationnement et de la signalisation routière.
Je pense qu'on peut, on peut pallier un peu à des embouteillages. Donc, la solution, moi, je l'avais toujours dit la fois dernière, il faut agrandir les routes à Kinshasa. Kinshasa a des problèmes. On a une petite route qui ne répond pas à l'avenir des Congolais. Kinshasa, c'est notre cœur. Kinshasa, c'est notre grande ville où tout le monde qui est dans des provinces a l'envie d'y venir y rester. Où tout le monde qui est dans des provinces a l'envie d'y venir visiter. Mais quand on arrive dans une ville où on n'a même pas de route où passer, et quand on fait des petites villes de voisins ici, il y a des routes, ça fait mal. Donc les autorités doivent prendre des décisions durables pour les Congolais. Des décisions durables. Donc l'intérêt communautaire doit nous intéresser. Pas l'intérêt individuel. Pas l'intérêt pour un individu quelconque, non. Les routes sont d'une importance capitale aujourd'hui pour la ville de Kinshasa qui souffre. Moi, je peux dire que c'est une maladie.
Merci beaucoup
pour Kinshasa.
Merci beaucoup, cher collègue Jacques Fouraïcha. Nous vous gardons en ligne et rappelons que vous êtes rédacteur en chef, hein, directeur général, pardon, de la Radio Ndenga, un organe de presse basé à Kalemi. Je me tourne vers vous, cher collègue Pascal Kambala. Vous êtes journaliste à la rédaction des Radio Biwan. Dites-nous, comment commentez-vous cette actualité qui défraie la chronique depuis 3 semaines, hein, concernant la circulation alternée à sens unique à des aires spécifiques afin d'améliorer la circulation des personnes et de l'air bien à Kinshasa?
Merci beaucoup. C'est difficile que cette mesure produise des effets positifs. Vous savez pourquoi? Celui qui est à Mitendi le matin, celui qui est à Ntsele, celui qui est à Mboudi, celui qui est à l'UPN, là où moi j'habite, celui qui est à la Cité Verte, Maman Mobutu, quartier Badiading, la majorité des gens, des Congolais, descendent en ville. C'est un vrai problème. Nous devions délocaliser beaucoup de services. Parce qu'on ne peut pas comprendre, le matin, la majorité des Kinois descendent en ville. Alors qu'il y a des services où on peut délocaliser, freiner, pour qu'il n'y ait pas la mobilité vers la ville. Je donne par exemple, parce qu'il faut aller vers les solutions. Pourquoi on n'arrive pas à digitaliser l'obtention de passeport? Il faut aller voir aux affaires étrangères. Beaucoup de Congolais descendent le matin pour aller récupérer les passeports. Pourquoi ne pas donner cette compétence aux communes?
Par exemple,
pourquoi ne pas l'année prod? Oui, aux communes, pour éviter que les gens descendent le matin. Je descends en ville que juste aller aux affaires étrangères, faire un tour à l'ANR. Ça pose un sérieux problème. Pourquoi ne pas demander au niveau de l'enseignement primaire et secondaire que l'année prochaine, les élèves doivent étudier dans leur commune? Vous habitez Ngaliema, étudiez en Ngaliema. Vous habitez Gombe, étudiez à Gombe. On ne peut pas comprendre. Je vois nos enfants qui quittent Mitendi à bord des bus scolaires. À 15h, 16h, ils sont encore en route en rentrant à leur maison, en rentrant chez leurs parents. Vous voyez ce que ça pose comme problème?
Oui.
C'est difficile. Pourquoi ne pas instaurer ça? Vous habitez telle commune, vous devez étudier dans votre commune. Ça va résoudre ces problèmes. Et aussi, j'ai suivi les ministres des infrastructures, Guy Saro, à l'Assemblée nationale, dire que le problème de construction de routes, c'est puisque nous n'avons pas les moyens. Monsieur le ministre, je vous dis qu'il y a des moyens. La RDC a des moyens de lancer une politique active de construction de routes. Si le gouvernement n'a pas de moyens. Mais allons-y vers le contrat chinois. C'est, le modèle, c'est le contrat chinois. Il y a des entreprises privées. Il y a des entreprises privées qui font même, qui lèvent des fonds pour soutenir des projets de l'État, notamment construire des routes. Je prends le cas de Afi Group. C'est une société de droit congolais qui lève des fonds pour soutenir des projets privés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons aller vers les intelligences complexes. Je l'ai toujours dit. Comment arriver à soutenir, à créer, à construire des routes secondaires? Vous savez, quand vous êtes à Delvaux, de temps en temps, moi j'ai fait la marche à pied. Quand vous êtes à Delvaux, vous savez que vous pouvez atteindre Bandal facilement. Derrière l'hôtel Okapi, il y a une avenue qui arrive jusque cimetière de Kitambo. C'est-à-dire qu'on peut aller loin. C'est à nous. Vous savez, vous êtes au niveau de Delvaux, le quartier Présidence, l'ancienne villa de Marshall Mobutu. Cette route, il y a une érosion. On peut créer une route, ça sort jusque Selembao. C'est-à-dire que vous êtes au niveau des AP. On peut construire une route. Vous allez jusque à Mongafou, là, vous allez terminer au niveau de Fouakin. Donc, c'est à nous, Congolais, de mettre des moyens, de trouver les moyens de construire des routes secondaires, d'élargir nos routes, et puis de délocaliser certains services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et faire respecter aussi le plan de la ville de Kinshasa. Pourquoi on ne respecte pas les plans de la ville de Kinshasa? C'est anormal le matin. La majorité des gens, même si c'est difficile qu'on puisse arriver à résoudre ces problèmes d'embouteillage, bien que les embouteillages sont des phénomènes qui existent partout. Mais chez nous, il y a des problèmes que nous-mêmes nous avons créé cela. Parce que la majorité des gens descendent en ville. L'administration publique, c'est tout en ville. La fonction publique, c'est en ville. Les gouvernements en ville, je l'ai dit. La présidence, c'est en ville. Donc, vous voyez, tous les services, les ambassades, partout, c'est en ville. Donc, l'État de Gombe, passez-moi cette expression, l'État de Gombe, le matin, reçoit beaucoup de Kinois qui viennent là-bas. Parce que on dit les sièges des institutions, c'est à Kinshasa. Oh, mais les sièges des institutions, c'est à Gombe. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas à Gombe. Donc, beaucoup d'établissements, même les ambassades pour obtenir votre passeport, votre visa, tout, c'est à Gombe. Donc, allons-y loin, donnons les idées. Comment créer une autre ville de Kinshasa? Je vois à côté, c'est là-bas, comment on a fait les lotissements. Les lotissements qui ne respectent pas les normes. Quand vous allez, pourquoi ne pas élargir la ville de Kinshasa? Quand je vois, la ville de Kinshasa va atteindre d'ici là, Kasangoulou. Il y aura une confusion entre Kinshasa et Congo central au niveau de Kasangoulou. Oui, parce qu'il y a des gens qui construisent déjà de ce côté-là. Donc, aujourd'hui,
chers collègues, en même temps aussi, on ne peut pas tabler uniquement sur les transports routiers dans une ville, dans une mégapole de plus de 17 000 habitants.
Exactement. Moi, j'ai étudié à l'Institut Kilimani, la montagne. Mais quand vous arrivez à notre époque, vous arrivez à Kitamo Magasin, nous voyons les trains. Mais le train est parti où? C'est notre propre bêtise. Nous avons préféré vendre des parcelles le long de rails. Et je salue cette action. J'ai appris que l'ONATRA va récupérer toutes ces parcelles, va récupérer sa concession. Les gens qui ont loti tout au long du rail. C'est ça le vrai problème. Nous n'avons pas pensé 2030. Quelle sera l'image de la ville de Kinshasa? On a supprimé le train. C'est anormal. C'est anormal dans la ville de Kinshasa. Donc aujourd'hui, le problème, c'est à nous, Congolais, de modifier nos comportements. Nous devons bien lotir. Il y a des espaces à respecter. On ne peut pas construire à côté des rails. On ne peut pas construire à côté des rails. Et on détruit. Aujourd'hui, on doit construire les villes. J'ai fait un tour du côté Kisenso il y a deux semaines. Mais ce sont des quartiers à bien lotir, à bien créer l'administration de l'autre côté, du côté Matete, du côté Massine, à côté Ndjili. On peut créer de l'administration de l'autre côté pour éviter qu'il y ait de la mobilité. Comment le matin, quelqu'un, une maman, pour aller acheter l'uniforme de ses enfants, doit aller au grand marché? Vous voulez acheter les produits pharmaceutiques, vous devez aller au grand marché. Vous voulez acheter les habits de Ketch, vous devez aller au grand marché. Mais c'est anormal. On doit arriver à délocaliser certains services pour arriver à aider. Et aujourd'hui, je dénonce avec fermeté. Jusqu'aujourd'hui, le marché Matadi Kibala n'est pas encore construit. Alors que l'argent est sorti, qui ont bouffé l'argent pour construire? Le chef de l'État a dit, et on va construire le marché Matadi Kibala. Vous voulez encore qu'il y ait des morts pour qu'on puisse se rappeler, il faut construire le marché Matadi Kibala. Donc, c'est ça la grande responsabilité que nous avons, nous, Congolais. Nous devons aller vers les intelligences complexes, des idées positives pour arriver à trouver des solutions par rapport aux problèmes qui nous guettent, par rapport aux problèmes que nous sommes confrontés avec. Donc, le problème, c'est que ces mesures prises ne vont rien résoudre parce que le matin, les Congolais se dirigent à un seul endroit. La majorité des Congolais.
Merci beaucoup.
La majorité des Quinois.
Merci beaucoup.
La majorité des Quinois.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de Radio Biouane. On vous garde en ligne. Restez à l'écoute parce que on est en train de tourner ces rendez-vous. On a encore des sujets qu'on n'a pas encore débattus. Sarah Manganza, vous êtes journaliste à Environ News. Comment commentez-vous cette actualité qui défraie la chronique depuis 3 semaines? Les nouvelles mesures prises pour lutter contre les embouteillages sur certaines artères principales de la ville de Kinshasa?
Moi, je pense que nous devons, à un moment donné, éviter de copier les autres pays, parce que les contextes ne sont pas les mêmes.
Les mêmes.
J'ai comme impression que nous avons l'habitude de trop copier, et en voulant trop copier, nous copions ce que nous ne devons pas copier, parce que nous sommes différents. Chaque État est différent, chaque pays a sa façon d'être, et tout, et tout, et tout. Moi, je pense que l'autorité doit commencer par imposer d'abord son autorité, s'il faut se répéter. Il y a des fois où j'ai comme l'impression qu'en RDC, il n'y a pas d'autorité. L'autorité est quasiment absente. Nous avons des routes qui sont pleines, c'est-à-dire les conducteurs ne respectent rien. Prenons le cas, j'aimerais prendre seulement le cas du boulevard du 30 juin. Sur le boulevard du 30 juin, il y a 4 bandes, si je ne me trompe pas.
Il y en a quatre bandes. Dans les deux sens, oui.
Voilà. Voilà. Mais il y a de ces conducteurs qui vont jusqu'à 6 bandes. 6 bandes d'aller, 6 bandes de retour pour se trouver un chemin par impatience. Pourtant, il y a moyen que chacun reste sur sa bande, que chacun respecte le feu et que chacun attend son tour pour que nous passions tous et qu'il n'y aura pas de problème. Le plus grand problème des embouteillages à Kinshasa ici, c'est d'abord
l'incivisme des usagers de la route.
Voilà. Et l'État, malheureusement, est absent pour imposer son autorité, pour les conducteurs disciplinés.
Cher concert, les agents de la PCR sont là pour réguler la circulation, cher concert.
Non, mais ils sont là pour leur poche, Tati. Il faut faire la part des choses.
Comment
les
ça?
Les agents sont là pour demander. Il y a des moments où l'agent est en train de réguler, mais il arrête pour venir d'abord prendre un 500 francs sur un véhicule. Entre-temps, pendant que la personne lui cherche les 10 500 francs, les autres attendent et ça...
Et ça entraîne les désordres et l'embouteillage s'installe. Oui.
Voilà. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est... Il y a beaucoup de routes impraticables aujourd'hui à Kinshasa. Donc, avant de prendre ces mesures-là, il devrait commencer par faire l'état des lieux des routes. Aujourd'hui, plusieurs routes qui peuvent aider à désengorger les grandes artères sont impraticables. Je n'irai pas loin, je prendrai seulement l'exemple de l'avenue, la grande artère ici, au niveau du rond-point... ça
m'échappe.
Rond-point Gambela. Oui. Cette route qui descend là, c'est l'avenue Matimanimba, si je ne me trompe pas. C'est une grande artère et l'avenue Matimanimba, aujourd'hui, est un marché. Est un marché. Pourtant, il y a moyen de réparer cette route-là et toutes ces routes-là peuvent aider d'une manière ou d'une autre. Le rond-point Gambela lui-même, il est impraticable. Sans citer plusieurs autres routes qui sont impraticables. Il y a par exemple Chaba, à un moment donné, à une partie de Chaba manque seulement des dalles à son croisement de l'avenue 24. Il ne manque que 4 dalles ou 6 pour que les véhicules passent par là. Il y a la route Bayaka, par exemple, qui n'est plus praticable. Non, il devrait commencer par réparer toutes ces routes-là et ça pourrait aider. ça pourrait aider à mon humble avis.
Sarah, en même temps aussi, mais en même temps aussi, Sarah, on constate également l'anarchie du côté des conducteurs des taxis moto. C'est aussi un mode de transport qui rend service, c'est vrai, mais c'est un secteur qui n'est pas aussi réglementé.
Oui, c'est justement parce que l'État n'impose pas son autorité. Parce qu'il y a moyen de réguler ça, il y a moyen d'aider les motos à être disciplinées et à prendre par exemple une seule bande. Les motards sont partout, partout. Moi, j'ai toujours risqué de les percuter. Une fois, j'ai percuté un motard qui est entré même sous mon véhicule. Donc, c'est compliqué. Et nous sommes, je n'ai pas encore parcouru toute l'Afrique, mais en comparaison des quelques pays africains que j'ai eu à visiter, nous sommes la seule capitale où vous avez sur une chaussée les véhicules, les poids lourds, les charrettes,
les motos, les vélos
et les piétons. C'est compliqué. C'est très compliqué.
Donc, c'est aussi important que le gouvernement pense à des projets innovants, cher Concert, tels que les téléphériques, les transports fluviaux et la construction des tramways, par exemple, parce que, bon, si les voies ferrées sont quasi inexistantes...
Comme le conseiller l'ont dit, par exemple, la voie ferrée, c'est très important parce que dans d'autres pays, ça aide beaucoup. Et curieusement, nous n'avons pas la culture de copier des bonnes choses. Nous copions des choses qui nous enfoncent davantage. Par exemple, la voie ferrée. Ça, on pourrait très bien copier. Si aujourd'hui, on répare toutes les voies ferrées, moi, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Il y aura vraiment moins de problèmes de circulation. C'est compliqué, cette histoire des sens uniques ne nous aident pas du tout. Il y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai eu à faire une heure du temps de l'église Notre-Dame du Congo au boulevard du 30 juin sur 24. J'ai fait 4 heures du temps. Imaginez.
C'est pénible.
Ça n'a pas de sens. Avec le coût du carburant et tout, mais ça s'est tué à petit feu.
Merci beaucoup à vous tous, chers collègues et concerts, d'avoir analysé ces thèmes, ces rapportant aux nouvelles mesures de lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, qui jusque-là, au bout de 3 semaines, n'ont presque pas amené des résultats. Au contraire, on a l'impression que les embouteillages se sont aggravés sur les artères principales de la capitale congolaise. Le deuxième et le dernier thème de ce soir concerne, chers collègues, la conférence de Bakou de 2024 sur les changements climatiques, qui a commencé le 11 novembre dernier à Azerbaïdjan. Lors de sa prise de la parole à ses assises le mardi dernier, le 12 décembre dernier, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a exigé à la communauté internationale et aux pays pollueurs de repenser à une compensation équitable au profit des communautés locales et des peuples autochtones pygmées de la RDC. Elle a également indiqué que cette compensation devrait être équivalente au rôle que joue la RDC dans la préservation du climat mondial. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration, chers confrères et consoeurs? Nous commençons par vous, Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Comment commentez-vous cette déclaration de la première ministre à Bakou?
Oui, merci Tati. J'ai suivi la déclaration de la première ministre à Bakou, COP29. La RDC aujourd'hui constitue un poumon mondial du climat et voilà pourquoi il faut préserver cette richesse de la RDC. Mais quand j'entre dans les fonds du discours ou du message de la première ministre, moi je pense que les pays membres peuvent songer à la RDC et affecter tout pour notre pays, pour nos communautés locales. Est-ce que cette communauté locale sera réellement bénéfique? Moi, je ne crois pas. Bon, je ne prétends pas le mal, mais je suis pas vraiment convaincu que cette communauté locale peut en bénéficier. Je donne l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a annoncé le nouveau financement du bassin, donc pour l'initiative
des forêts du bassin de recherche dans les forêts du bassin du Congo.
Du bassin du Congo.
Oui.
Oui, pour permettre aux scientifiques de fournir des bonnes données, des connaissances nécessaires pour la politique autour de la protection de la forêt.
Et la gestion rationnelle des forêts du bassin du Congo.
Est-ce que les populations qui sont qui peuvent être bénéficiaires de ces financements vont y bénéficier? Moi, je ne crois pas. Environ 11,7 millions, c'est beaucoup.
C'est beaucoup d'argent. Mais...
qui peuvent contribuer à la protection de nos forêts, à la conservation rationnelle de notre nature, de notre forêt. Nous sommes un poumon pour notre Afrique, pour le monde entier en général. Mais vous allez vous rendre compte que ces financements vont se limiter dans les poches des gens et détourner des objectifs destinés à ces financements. Un COP 29 où les pays peuvent se faire représenter le Congo qui devrait prendre part, c'était 291. Imaginez tous ces 291 et dont la présidence des représentants. Et vous pensez que même si on a ça, c'est vraiment contribuer au bénéfice du peuple congolais ou de l'Afrique? Donc, c'est bien qu'on nous donne ça, c'est bien qu'on nous assiste. Ça va venir de le dire tout de suite là sur le sujet des embouteillages à Kinshasa. Le problème dans notre pays, c'est cette autorité de l'État. Il y a l'autorité de l'État quand il s'agit d'une certaine somme d'argent. D'une certaine somme d'argent où il sait bien qu'il doit se retrouver, mais pour l'intérêt de son peuple, c'est vraiment très difficile. Mais 11,7 millions du Royaume-Uni, moi je pense que ça peut contribuer à la protection de nos forêts. La forêt tropicale, mais aussi les forêts qui existent même dans d'autres provinces, par exemple au Tanganyika, nous avons la forêt de Kabobo, une forêt où vous allez vous rendre compte que quand vous y arrivez, tout le monde coupe les arbres selon son choix. Il y a les peuples autochtones qui coupent, il y a coupe sans reboiser, et ça c'est un défi majeur pour notre forêt. Ça ne contribue pas à la forêt d'émerger. Donc, on a des financements comme ça. On plaide devant les nations partenaires, devant les autres pays pour un soutien au pays. Il faut tout faire pour que cette somme soit affectée réellement et que tous en bénéficient. J'ai fait des tours à Kabobo. Non, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable.
Merci beaucoup, cher collègue Jacques Fouraïcha, directeur général de la radio Ndenga, basée à Kalemi. On vous garde en ligne. Je me tourne vers Pascal Kambala. Pascal, comment commentez-vous, comment analysez-vous la déclaration de la première ministre à Bakou, qui a demandé beaucoup plus de ressources au profit des communautés locales, les PAP, parce qu'elles sont les gardiennes des forêts tropicales qui contribuent grandement à la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale.
Bon, il y a un élément qu'il faut... Tout d'abord, je salue la Première ministre cette position par rapport aux intérêts de la RDC. Je salue aussi Mme Eve Bazaïba qui se bat par-ci, par-là pour que qu'on puisse arriver à reconnaître que la RDC, c'est un État, un pays solution par rapport au changement climatique. Ce sont deux dames que je salue par rapport à cette activité. Et aussi la volonté du chef de l'État par rapport au réchauffement climatique, par rapport à ce qu'on puisse respecter ce que la RDC fait dans la participation, disons, de protéger l'humanité. Mais il y a un élément qu'il faut dire. On dit 11 millions de dollars. Ça, c'est se moquer de la RDC. La RDC peut mobiliser plus que ça.
Oui,
vous savez,
cher collègue, s'il vous plaît, au fait, les 11 millions de dollars, ces fonds-là sont uniquement alloués par l'ambassade britannique, par le gouvernement britannique, concernant la protection des forêts du bassin du Congo. Mais pour cette édition, sous la présidence de Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan, la COP29 met l'accent sur la collecte des fonds pour remplacer l'objectif actuel des 100 milliards de dollars par an qui prendra fin jusqu'en 2025. Donc, les discussions vont porter sur cette question-là. Comment mobiliser les 100 milliards de dollars qui seront orientés dans les projets de résilience et d'adaptation des transitions énergétiques dans tout le pays concerné par cette question du changement climatique ou affecté par le changement climatique?
Oui, mais collègues, les pays pollueurs sont connus. Ils sont connus, les États-Unis, la Chine, tous ces pays-là qui sont au niveau de l'Union européenne. Mais si une activité économique entraîne une pollution, le coût de cette pollution doit être pris en compte par les pays pollueurs.
Oui.
C'est clair.
Mmh.
C'est les principes de pollueur-payeur ou les principes du perturbateur. C'est lui qui pollue, il doit payer.
Mmh.
Mais nous, la RDC a des ressources naturelles, des vastes forêts, des tourbières, des réserves d'eau douce, des minéraux stratégiques. Et la RDC participe, si beaucoup de gens ne savent pas, la RDC participe à protéger le monde.
Mmh.
Parce que les pays pollueurs polluent la nature pour leurs intérêts. Et nous, nous ne polluons pas. Et nous qui participons à préserver le monde, nous commençons à quémander. Oui, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Non! Il faut qu'on fasse attention. Nous devons exiger davantage qu'on puisse reconnaître que la RDC est un pays solution et qu'on puisse une compensation digne à la taille de ce que nous participons au niveau du monde, à ce que nous faisons à travers le monde. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Depuis que ça a commencé, les États pollueurs, ils continuent toujours à polluer. La RDC a déjà bénéficié combien? Je sais qu'il y a des certificats à crédit carbone, mais il y a combien de projets qui sont montés ici en RDC et on a bénéficié de ces crédits carbone? Donc, l'objectif de ces assises COP29, c'est réduire le réchauffement climatique à court terme et à maintenir à portée de main l'objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius. Dans cette température-là, qu'est-ce que nous produisons comme COD pour détruire l'atmosphère? Nous sommes pour rien. Ce sont les autres.
Émission zéro.
Nous sommes un pays, nous ne polluons pas à grande échelle. Ce sont les autres qui polluent le monde.
Oui, mais en même temps,
c'est nous, les victimes.
Oui, chers collègues.
C'est nous qui protégeons.
Oui.
Oui.
Mais je disais, en même temps, chers collègues, Jack Fouraïcha de Kalemi, il l'a relevé. Il est bien beau de mobiliser des fonds, mais lorsque ces fonds ne sont pas bien gérés, bien orientés vers les communautés concernées, c'est aussi un problème.
Non, mais vous savez, il y a une maladie ici dans notre pays. Hein. Quand on dit la justice est malade, mais ça, il faudrait aussi dire aussi que, Foucault n'est pas dit aussi les hommes politiques sont malades, ou quoi? Parce que des fonds qui arrive, vous verrez seulement, il y aura des gens qui vont boutiquer des choses pour détourner. Il y a un vrai problème au niveau de nos propres comportements, de ce que nous voulons être demain.
Mmh.
C'est ça le vrai problème. Est-ce que sommes-nous contre le développement ou quoi? Nous voulions-nous protéger notre nation ou quoi? Si les fonds arrivent, pourquoi ne pas les orienter vers les bénéficiaires? On attend par-ci, par-là, détournement des fonds publics. Mais c'est honteux pour nous. Des fois, c'est décevant, des fois, de parler de ces choses. Ah, il y a des communautés qui souffrent. Soit, évitons toutes ces communautés-là à détruire l'environnement. Évitons toutes ces communautés à détruire. Vous verrez ce qui va se passer. C'est très capital, il faut préserver la nature, il faut préserver notre environnement. Donc, vous savez, je suis aussi membre d'une ONG environnementale, Ensemble pour l'environnement.
Mmh.
Mais je vous dis, dans nos débats, dans ce que nous disons, vous verrez que l'homme est dangereux vis-à-vis de la nature. Et que si il y a l'argent qui arrive et que les gens ne comprennent pas qu'il faut mettre ce moyen-là pour préserver la nature, c'est encore dangereux, c'est vraiment un criminel environnemental. On ne peut pas comprendre si, parce que de temps en temps aussi, ces pays pollueurs, ils se disent, OK, on va envoyer l'argent en RDC, mais qui? On attend de l'autre côté tel dossier a détourné des millions, des millions. Tout ça, c'est à nous, Congolais. C'est à nous, Congolais, de voir. C'est qu'il y a un problème sérieux. Nous avons des minerais stratégiques. C'est profitable à nous, Congolais. Nous devions vendre ça très cher. Nous devons aller loin. Nous ne devons pas avoir un pays avec un budget de 18 milliards. Nous devons avoir un budget à la taille de ce que nous représentons au niveau mondial. C'est là aussi l'ingéniosité de la classe politique à comprendre que nous devons capitaliser notre position par rapport à l'environnement et que nous pouvons bénéficier des fonds qui seront orientés. Avoir un budget maigre, un budget modique comme ça, un budget chétif comme a toujours dit le professeur Michel Sombré, c'est dangereux alors que nous avons des potentialités. L'environnement peut nous donner des moyens, les minéraux peuvent nous donner des moyens, la terre en compte de donner les moyens. Donc, il est temps pour nous, Congolais, que nous allons vers le métanoïa, nous allons vers le changement de mentalité, et surtout, j'insiste, la classe politique, aller vers le changement de mentalité pour que les choses bougent au Congo. Parce que quand on regarde notre classe politique, que ça soit au niveau de la majorité, que ça soit au niveau de l'opposition, c'est une déception totale. 64 ans d'indépendance après, le Congo n'arrive pas à bouger parce que la classe politique n'arrive pas à comprendre que le grand Congo est au cœur des enjeux mondiaux et nous devons nous affirmer comme tels et puis bénéficier bénéficier ce que nous doit réellement.
Merci beaucoup Pascal, on vous garde en ligne. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de la radio Biwan, un organe de presse basé ici à Kinshasa. Je me tourne vers vous, Sarah Manganza. Nous rappelons que vous êtes journaliste environnemental, journaliste du média EnviroNews. Comment commentez-vous cette déclaration à chaud de la première ministre Judith Suminwa à Bakou concernant la mobilisation des fonds qui doivent être canalisés vers les communautés qui protègent les forêts du bassin du Congo?
Je note dans la déclaration de notre première ministre les principes de justice, d'équité, de solidarité. En écoutant ces propos, j'avais, à moins que j'aie mal saisi, mais j'ai comme impression que encore une fois, nous retombons dans notre propre piège qui est celui de la politique de la main tendue. Si j'ai bien suivi le discours du secrétaire général des Nations Unies par l'entremise de Noura Hamladji, qu'elle m'excuse si j'ai massacré son nom.
Il n'y a pas de souci. Allez-y.
Elle a manifesté son intention d'aider la RDC à mieux articuler sa contribution déterminée au niveau national, qui est CDN, pour permettre à la RDC de s'approprier des mesures d'application de l'article 6.4 validé à la COP 29. Alors, Taxi, quand vous prenez les propos de la première ministre et que vous regardez ceux du secrétaire général des Nations Unies, vous voyez qu'il y a une petite nuance. Parce que les Nations Unies, eux, veulent nous pousser à avoir d'abord ce que nous avons pour voir par après comment on pourra bénéficier d'autres choses par rapport à ce que nous avons d'abord. Nous sommes quand même un pays, nous disons pays solution, nous disons scandale géologique, mais à un moment donné, lorsque nous n'arrivons pas à quitter notre surplace, c'est vraiment désolant. En prenant le cas de communautés locales, les communautés locales aujourd'hui, est-ce qu'ils attendent des millions pour décoller?
Non.
Je pense que non.
Non.
J'ai eu à poser la question récemment au secrétaire général à l'environnement dans une activité où il fallait réfléchir sur comment appuyer les communautés locales avec les fonds venant de l'extérieur. J'étais choquée, j'ai dit à monsieur le secrétaire général, mais pourquoi la RDC doit toujours attendre de l'extérieur? Nous allons des COP à COP, des décisions en décision. Rien ne bouge, rien ne marche. Mais pourquoi le pays ne réfléchit pas soi-même sur comment décoller, sur comment prendre des mesures d'encadrement pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Pourtant, cela est faisable. Les communautés locales, pour y revenir, si aujourd'hui on crée seulement des activités génératrices de revenus pour aider ces communautés-là. Pensons-nous que nos forêts ne seront pas préservées?
Elles seront préservées parce que elles seront préservées parce que Sarah, si les communautés locales font pression sur les ressources naturelles qui sont dans leur environnement, c'est parce que ils n'ont pas d'autre choix que d'aller prélever les ressources dans l'environnement, voilà. Mais s'il y a des activités alternatives, je pense pas. Je pense qu'ils vont réduire cette pression-là.
Oui, j'ai pris un autre cas. J'ai dit le pays a du mal aussi à canaliser l'État. Maintenant, le cas précis d'une entreprise qui s'est installée récemment au pays, pour ne pas la citer, c'est Pepsi. Quelles mesures d'encadrement pour récolter ces bouteilles-là, par exemple? C'est une pollution plastique. Et combien cette entreprise-là déverse au pays aujourd'hui pour... compenser cela, par exemple. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres marques étrangères qui s'installent au pays, mais l'État pouvait bénéficier de ces taxes-là pour organiser aussi les choses, à mon humble avis. J'ai toujours réfléchi comme ça, je me dis, mais l'État a des moyens de créer des taxes par rapport à ces marques étrangères-là, comme font les autres pays, par
exactement.
Exemple, pour générer des retours.
Tout à fait.
Mais... voilà, mais cet argent-là va où? Encore une fois, dans les poches des gens, pour ne pas les citer.
Et donc, d'après vous, cher conseil, il faut vraiment améliorer la gouvernance du secteur de l'environnement, et puis le reste va aller de soi. Ça ne sert à rien de pleurnicher ou de faire des plaidoyers sur les ressources financières et autres.
Voilà, c'est exactement ça en conclusion.
Merci à vous tous d'avoir analysé ces thèmes, ces rapportants à la conférence annuelle sur le changement climatique, édition 2024, qui se tient à Bakou, à Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre prochain. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, chers collègues et chers consoeurs Sarah Manganda. C'est par ici que s'achève ce numéro de la Tribune de la Presse. Tati Mafoukou, c'est moi qui l'ai présenté, qui l'écoutait, s'est occupé de la coordination de ce numéro, et Martin Sebujangou est la supervision. Jean-Noël Mokondo était à la prise de son. Prenez soin de vous. Excellent week-end. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Tribune de la Presse.